Eh bien, en effet, nous sommes avec Jacques Paradis, notre chroniqueur vin. Bonjour, Jacques.
Bonjour, Xavier.
Alors, Jacques, aujourd'hui, on va parler des notes et des médailles que l'on attribue au vin. Et si vraiment il faut s'y fier à ces notes et à ces décorations, ces médailles que reçoivent les vins. D'abord, peut-être on pourrait poser la question, Jacques, c'est comment est-ce qu'on note les vins, en fait?
Oui. En fait, vous avez sans doute remarqué que selon les critiques et les publications, il y a différents systèmes qui sont utilisés. Alors, il y a celui, par exemple, de sur 100 points, une note sur 100 points, qui est très populaire, qui a été popularisée dans les années 80 par Robert Parker, le grand critique américain, et puis qui a été adopté ensuite par le Wine Spectator. Alors, il y a beaucoup d'autres critiques qui ont utilisé ce système-là. Et alors ça, c'est l'un de ceux qui est bien répandu. Un autre, c'est celui d'une note sur 20 points. Il y a le système à 5 étoiles. Alors, par exemple, le guide du vin Faneuf, c'est ce qu'il utilise. François Chartier, le magazine britannique Decanter. Puis, il y a le système à 3 étoiles, comme les guides Michelin. Alors, le guide achète des vins, c'est ce qu'il utilise. Le guide italien Gambero Rosso, c'est ce qu'il utilise aussi, 3 verres.
Alors, ces prix ou ces notes sont attribuées lors de concours de vin, c'est comme ça que ça se passe, Jacques?
Dans ces cas-là, ce sont plutôt les critiques eux-mêmes
D'accord.
qui font la dégustation.
D'accord.
Mais ce qui est important peut-être de soulever ici, c'est que comme il y a différents systèmes, et si vous êtes habitué de suivre un critique ou une publication, ça peut valoir la peine, si on ne l'a pas déjà fait, de regarder la légende ou l'explication quant au système de classification pour comprendre un petit peu comment c'est fait. Comme par exemple, les systèmes habituellement à 5 étoiles ou 3 étoiles, c'est généralement une note d'ensemble pour la qualité du vin qui est attribuée. Mais dans le cas, par exemple, du système à 100 points, alors c'est un système qui se veut plus précis. Alors, dans ce système-là, au départ, tous les vins ont une valeur par défaut de 50 points, puis à laquelle on ajoute jusqu'à 5 points pour la couleur, jusqu'à 15 points pour le bouquet, jusqu'à 20 points pour les saveurs et la finale, et puis 10 points pour la qualité d'ensemble.
Est-ce qu'il serait mieux, par exemple, d'adopter pour soi-même une forme de un des barèmes de notation, puis de toujours d'utiliser le même? Peut-être qu'on fait confiance en particulier à cet évaluateur?
Oui, en fait, d'une part, ça, il faut connaître, parce que, par exemple, la différence entre une étoile dans le guide Faneuf, qui est un système à 5 étoiles, signifie que c'est un vin passable. Pour Faneuf. Mais une étoile dans le guide Hachette signifie que c'est un très bon vin, un vin très réussi. Alors, c'est quand même très différent comme évaluation. Je crois que c'est ça. D'une part, ce qu'il ne faut pas uniquement se fier à la note par elle-même, parce que ces notes-là sont toujours accompagnées d'un commentaire de dégustation. Et puis, c'est là où on peut un petit peu plus évaluer, par exemple, le style du vin, puis le goût personnel du critique. Parce que l'évaluation du vin, c'est une matière qui a une certaine objectivité. On évalue l'acidité, le corps, l'équilibre et tout ça. Mais il y a aussi une question de goût. Alors, Robert Parker aime des vins qui sont forts en alcool, qui ont beaucoup d'extraits, qui sont très costauds. Mais certains autres critiques ou évaluateurs aiment plutôt des vins qui sont plus légers, qui sont plus en finesse. Alors, il faut, pour répondre à ta question, finalement, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de trouver justement un critique avec qui on a certaines affinités.
D'accord.
Alors, on a essayé une de ses recommandations, on l'a aimé, tout ça, un ou deux. Et puis, de regarder de plus près, de bien comprendre le système d'évaluation qu'il utilise. Et puis, à ce moment-là, ça nous donne une certaine confiance pour essayer de nouveaux vins.
D'accord. Alors, tu parlais de Faneuf, ça s'écrit comment, Jacques, pour les auditeurs qui se demanderaient un petit peu?
De Faneuf, c'est le grand critique du Québec. Alors, c'est P-H-A-N-E-U-F.
D'accord. Comme pour le hockey. D'accord.
Oui.
OK, parfait. Et maintenant, on va parler un petit peu des concours de vin. On sait qu'il y a au cours de l'année, il y a toujours des grands concours à travers le monde. Est-ce que on peut s'y fier? Est-ce que ça a vraiment une valeur, ces concours? Est-ce que c'est quelque chose auquel on devrait prêter attention?
Je crois qu'ils ont une certaine valeur. Et puis, les médailles et les prix qui sont accordés ont certainement une valeur financière importante pour les producteurs parce qu'ils font vendre les vins. Mais il faut les prendre un petit peu avec un grain de sel. Là aussi, il faut connaître un peu le contexte. D'une part, certains pays multiplient le nombre des concours vinicoles. Par exemple, en France, il y en a plus de 100 par année. Mm-hmm. Alors, à un certain moment, c'est qu'il y a beaucoup de vins qui se voient octroyer là, des prix et des médailles. Aussi, certains concours vont accorder des prix en grand nombre. Alors, j'étais un peu moi-même étonné de voir que d'apprendre qu'en France, il y a une loi qui limite le nombre de prix qui peuvent être accordés dans le cadre d'un concours vinicole. Alors, on ne peut pas accorder plus de médailles ou de prix qu'à un tiers des participants ou des vins qui sont soumis. Mmh. Parce que ce qui est déjà énorme, ça veut dire sur s'il y a 1000 vins, alors il y en a jusqu'à 330 qui peuvent recevoir une médaille. Mmh. Et dans le cas de pays où il n'y a pas une loi semblable, comme en Grande-Bretagne, alors l'International Wine Challenge de Londres accorde jusqu'à 40% de médailles entre tous les vins qui sont soumis.
Mm-hmm. On va finir un petit peu avec un coup de cœur. Alors, c'est une petite rubrique à cette chronique. Un coup de cœur de la semaine. Est-ce que tu as un vin à nous suggérer, Jacques?
Oui, je pourrais le faire. J'ai goûté dernièrement, alors comme par exemple on attend l'été et tout ça, alors peut-être un vin léger qui déjà nous tourne vers la belle saison. Alors un Gruner Veltliner. Alors si vous ne connaissez pas ce cépage-là, alors ça pourrait être une découverte à faire. C'est un vin d'un cépage qui est le cépage dominant en Autriche. Et c'est un vin qui est léger de caractère et qui habituellement a des saveurs minérales, un petit peu herbacées, puis d'agrumes. Alors c'est très frais, très rafraîchissant, un vin qui est vraiment parfait pour l'été. Alors celui que je pourrais recommander pour simplement faire une première approche et puis connaître le style, c'est le Gruner Veltliner numéro 13. Et la maison s'appelle Winzer Krems. Alors, c'est Winzer Krems. Winzer Krems. Et le cépage, c'est Gruner Veltliner, numéro 13. Et c'est un vin qui se vend à 11,80. Alors, c'est tout à fait
très abordable.
Abordable,
oui.
Et puis, ça peut être une façon, justement, de découvrir là, ce coffre, ce cépage-là. Et si vous aimez le style, c'est entre, je dirais, un Pinot Grigio et un Sauvignon Blanc.
Très
alors,
bien.
Avec une très belle acidité. Alors, c'est un vin d'apéritif qui est parfait. Et puis, si vous l'aimez, alors ça pourrait être quelque chose à explorer davantage avec d'autres producteurs d'Autriche.
Très bien. Alors, tu veux nous répéter, c'est trouvable dans tous les magasins de la SCBO, d'après toi?
Dans plusieurs, oui. Ce n'est pas un vin de vintage, c'est un vin qui fait partie du répertoire courant de la LCBO.
OK. Tu veux nous répéter l'épellation de la maison?
Oui, c'est Winzer Krems, alors Winzer Krems.
Eh bien voilà, un vin autrichien pour nous mettre un petit peu dans le printemps, dans les températures qui, on espère, vont monter dans les jours et les semaines qui vont venir. Merci Jacques.
Ça fait plaisir.
Et puis on se revoit bien sûr pour la prochaine chronique vin avec Jacques Paradis. Quant à nous, nous continuons sur les ondes de Choc FM.